Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Bon matin, Martin, comment ça va?
Bon matin, Greg, ça va très bien. Moi, je suis revenu de vacances hier soir. J'ai pas encore mis. Tu dis que le froid fait mal ce matin. Je vais découvrir ça tantôt, là, mais je pense que c'est notre première fois ensemble.
C'est notre toute première fois et tu sais le respect que je te voue. C'est tout un honneur pour vrai d'être avec toi ce matin puis de collaborer dans ces deux semaines-là. Écoute, je te fais une petite confession. Puisqu'on n'a jamais fait de radio ensemble, quand on m'a demandé de faire mon alignement de rêve pour le temps des fêtes et que j'ai mis ton nom en haut de la liste, la joie que j'ai eue quand tu as accepté de te joindre à nous pour le temps des fêtes est un petit peu plus grande que pour les autres. Ils pourront me donner une tape s'ils veulent, là, mais c'est peut-être parce que je les connais tous déjà, eux, puis que j'ai fait de la radio avec eux autres.
Écoute, le bonheur est partagé, mon vieux, puis je sais que tu fais du travail incroyable. D'ailleurs, ça se ressent dans les codes d'écoute, là, la fin de semaine, puis je suis content de faire ça avec toi.
Ben, merci beaucoup, Martin. Puis écoute, bon retour de vacances. T'arrives au bon moment, donc pour commenter plusieurs trucs de l'actualité qui se passe. Puis on va aller, comme à ton habitude, avec ta grande expérience dans le sport, on va aller dans divers sujets à travers le temps des fêtes. Mais commençons par une nouvelle qui, toi, t'a fait réagir. Peut-être pas dans le bon sens non plus, mais le Titan d'Acadie Batters qui a été vendu dans les derniers jours. Et là, la Ligue de hockey junior Maritime Québec, va peut-être falloir ajouter une lettre, là, Maritime Atlantique Québec, qui retourne s'installer à Terre-Neuve.
Ouais, puis bon, il y a plusieurs aspects dans cette nouvelle-là, je trouve, qui n'ont pas été beaucoup explorés là, dans les nouvelles en fin de semaine. Premièrement, bon, c'est une situation triste. Il y a des gens d'affaires de Acadie Batters qui se sont impliqués depuis pas loin de 30 ans pour faire fonctionner une équipe là-bas. Les foules n'étaient pas suffisantes pour que ce soit rentable économiquement, puis on vend l'équipe. Mais moi, ça me jette en bas de ma chaise que les dirigeants de la LHJMQ décident d'aller réinstaller une équipe à Saint-John's, Terre-Neuve. Disons les choses franchement, là, Greg, c'est au bout du monde, Terre-Neuve. Là. C'est extrêmement loin. Il y a plus que 3000 kilomètres qui séparent Rouyn-Noranda de Saint-John's. Tu regardes les adversaires les plus proches de cette équipe-là, là, à compter de la saison prochaine, ça va être le Cap-Breton. Les Eagles du Cap-Breton sont à 1200 kilomètres. Puis Charlottetown, qui est la deuxième équipe la plus près, est à 1600 kilomètres de Saint-John's. Fait que c'est comme si les adversaires les plus proches du Canadien de Montréal, c'était les Blackhawks de Chicago puis les Prédateurs de Nashville. Alors, imaginez la quantité de transport que ça va nécessiter pour faire fonctionner cette équipe-là pour des joueurs étudiants, je trouve que ça n'a absolument aucun bon sens. Puis si on regarde l'historique du hockey à Saint-John's, à Terre-Neuve, il y a deux équipes de la Ligue américaine qui ont existé là-bas puis qui ont fini par déménager parce que ça n'avait aucun bon sens de placer un fardeau de transport aussi lourd sur les joueurs. Puis il y avait une équipe de la East Coast League aussi qui était là, qui a quitté cet endroit-là parce que c'était très difficile. Et il y a déjà eu une expérience de la Ligue de hockey junior majeure à Saint-John's. Il y a peut-être des gens qui se souviennent de ça, les Fog Devils, qui ont existé de 2005 à 2008. Puis cette équipe-là était obligée de payer des coûts de transport des équipes visiteuses parce que c'est une île, Terre-Neuve, il faut arriver là en avion. Et à un moment donné, quand les foules se sont mises à diminuer, ben les propriétaires se sont retrouvés en déficit et ça n'a pas fonctionné. Il a fallu qu'ils vendent l'équipe et qu'ils déménagent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ça, dans le fait d'aller s'installer à Saint-John's? Du point de vue des affaires, ça annonce pas bien. Et du point de vue humain pour les athlètes, moi je trouve ça épouvantable qu'on place un fardeau comme ça sur des athlètes de 16, 17, 18, 19 ans qui essaient de se développer comme joueurs de hockey puis qui essaient d'étudier en même temps aussi.
C'est certain. Et je me pose la question en écoutant ton argumentaire qui est très, très vrai, là, cela étant dit. quelles étaient les autres options pour le Titan d'Acadie Bathurst? On le sait que ça faisait plusieurs mois. C'est certain que tu entendais plusieurs choses, Martin, à travers les branches. Il y avait un autre groupe qui était intéressé. C'est sorti par la suite. Si je me trompe pas, par Radio-Canada, d'ailleurs, comme quoi Olivier Primeau avait un groupe qui était très intéressé pour acheter cette équipe-là également, la déménager aussi. N'y avait-il pas d'autres destinations possibles plus près, par exemple, des centres urbains pour déménager cette équipe-là? Est-ce que, je veux dire, le groupe de St. John's a finalement été le seul intéressé à acheter? C'est plusieurs questions que je me pose présentement. Et sinon, je veux dire, quelle était peut-être une autre solution viable s'il n'y avait pas d'acheteur, là?
Ouais, ben écoute, moi, tu sais, on s'entend, il semble-t-il qu'il y a eu plusieurs groupes intéressés. J'ai vu dans les propos du commissaire Cecchini qu'il y avait une vingtaine de groupes au départ qui avaient démontré de l'intérêt, qu'il en restait trois ensuite et que la meilleure offre pour acheter l'équipe est venue des promoteurs de St. John's. Fait que donc, c'est une décision d'affaires, mais ma solution était plus drastique que ça. Je pense que la Ligue de hockey, moi je l'appelle encore la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, j'ai beaucoup de difficultés avec le Maritime Québec, mais je pense qu'on aurait dû racheter simplement la concession, que la Ligue aurait dû racheter la concession et qu'on aurait dû réduire le nombre d'équipes. Et c'est pour ça que je disais que j'avais plusieurs sentiments par rapport à cette transaction-là. On en parle, ça fait 15 ans maintenant au Québec que le hockey est en perte de vitesse, qu'on a de plus en plus de difficultés à développer des joueurs de haut niveau. On se demande pourquoi il y a de moins en moins de Québécois dans la Ligue nationale, qu'il y a de moins en moins de Québécois qui sont sélectionnés au premier tour du repêchage dans la Ligue nationale. Pourquoi il y a de moins en moins de Québécois dans les équipes nationales canadiennes. Et une des raisons, tu sais, on a eu le rapport de Denis il y a 2 ans et demi qui a été fait, là, ouais. le rapport du comité présidé par Marc Denis. Puis il y avait des dizaines et des dizaines de suggestions dans ce rapport-là, mais il n'y avait aucune suggestion valable qui venait là, pour changer le cours des choses dans la Ligue de hockey Midget 3A ou dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui sont, on s'entend, c'est pas mal le point de passage de tous les joueurs d'élite au Québec, mais il y avait beaucoup de gens de qui étaient attachés à ces deux ligues-là qui siégeaient au sein du comité, puis ils n'ont pas touché à leur environnement. Et je trouvais ça dommage parce qu'il va falloir qu'il y ait des gros changements qui passent par là.
Absolument.
Et moi, je pense qu'on aurait dû profiter des difficultés économiques vécues par le Titan pour réduire le nombre d'équipes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a 18 équipes présentement au hockey junior majeur québécois. Le bassin de joueurs dans lequel puise le hockey junior majeur dans notre coin du pays est de 30% inférieur à ce qu'on voit en Ontario puis dans l'Ouest. Puis on a presque autant d'équipes qu'eux autres. Si tu regardes la courbe du temps, le déclin du hockey québécois, les Québécois ont commencé à disparaître de la Ligue nationale de hockey quand la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à l'époque, s'est mise à faire des expansions. Il y avait 12 équipes, après ça, on est passé à 13, 14, 15. On est monté à 18 et tu le demandes à tout le monde. Le demande à André Tourigny, c'était l'occasion pendant ton séjour à l'animation. Mais tu sais, il a été entraîneur en Ontario, puis il a été entraîneur au Québec. Puis la différence entre ces ligues-là et la Ligue de hockey, la LHJMQ, c'est la profondeur.
Pardon, parce que j'ai une question qui, je suis certain que plusieurs gens se la posent, celle-là, Martin. Est-ce que ça aurait été vu comme étant un échec de la part du règne du commissaire Cecchini si toutefois on avait eu à réduire le nombre d'équipes?
Ben, écoute, moi j'aurais trouvé que ça aurait été un geste courageux. Tout s'explique dans la vie, là, mais si la raison première de ton existence, c'est de développer des hockeyeurs de haut niveau, des joueurs de la Ligue nationale et des citoyens exemplaires, ben, il me semble que ça va de soi de prendre des mesures qui vont vers l'atteinte de cet objectif-là. Là. Tu dis que et c'est facile à expliquer, comme je te dis, là, je compile ces statistiques-là, ça fait 20 ans maintenant. La courbe est claire. Là. Depuis qu'on a augmenté le nombre d'équipes Midget 3 et junior majeur au Québec, le nombre de bons joueurs qu'on s'est mis à produire a chuté de façon très, très net, là, très, très clair. On avait 80 quelques joueurs québécois dans la Ligue nationale là, au début des années 2000, fin des années 90. Puis on est rendu, on a une trentaine, 32, 33. Alors, je pense que ça se serait expliqué. Je pense que ça aurait été bien reçu. Et je pense que le nombre idéal se situe probablement autour de 15 équipes. Là. Fait que c'est, ça aurait pas été un gros sacrifice de couper une formation. Ouais. Mais non, on a pris une décision d'affaires. On a pensé à la business au lieu de penser au hockey. Puis surtout, au lieu de penser aux jeunes. Puis, tu sais, moi, je regarde ce déménagement-là. On avait une discussion... au salon Jacques Beauchamp au cours des dernières semaines. Là, puis il y a un recruteur d'une équipe de la Ligue nationale qui donnait des coups de poing sur la table et qui disait, moi, si j'avais un enfant qui joue au hockey, je voudrais pas qu'il ait joué au hockey à Terre-Neuve parce que ça a aucun bon sens. Et j'ai de la misère à m'imaginer qu'il y a des parents qui vont se présenter au repêchage de la LHGMQ puis qui vont dire, c'est moi, je pense que c'est une bonne idée pour les études de mon fils là, puis pour son développement joueur de hockey. Je pense que c'est une bonne idée qu'il voyage encore plus qu'un joueur de la Ligue nationale puis qu'il essaie d'étudier à travers ça.
En autobus, là, c'est le fun à visiter. Là, je veux dire, ça c'est le bon côté, mais pour le reste, pour comme tu l'as dit, se déplacer et jouer au hockey, c'est peut-être pas l'environnement idéal justement pour les déplacements. Martin, je veux qu'on prenne les prochaines minutes ensemble pour discuter du match de ce soir à Columbus. On a un match qui va être intéressant à surveiller, puis on se nomme deux noms, puis là, on n'apprend rien à nos auditeurs en disant on va surveiller Patrick Laine et Lane Hudson, mais les tendances que tu as compilées sont excessivement intéressantes.
Oui, bien écoute, premièrement, tu sais, je pense que le Canadien est en train de faire la démonstration claire que c'est pas une équipe de troisième tiers dans la Ligue nationale. Si le Canadien continue comme ça, il va finir quelque part entre les rangs 12 et 24 cette année, ce qui va être une amélioration. Mais si tu regardes la fiche du Canadien contre les équipes du dernier tiers de la Ligue, le Canadien joue pour 863 à date contre les équipes qui sont entre la position 23 et moins. Tu sais, c'est le rythme d'une saison de 141 points. Là. Fait que si le Canadien jouait dans cette ligue-là, ce serait incroyable, mais ça veut dire qu'ils sont en train de passer à un autre niveau. Mais tu regardes Patrick Laine, sa séquence, moi, je suis sans connaissance. Ramenez-vous au début du mois de décembre, quand il s'apprêtait à faire son retour, on était tous en train de dire, là, ça fait un an que ce gars-là n'a pas joué, il faut le laisser aller, il va commencer tranquillement. Puis on s'entend à 5 contre 5, c'est pas la mer à boire, là, mais 8 buts en 9 matchs en avantage numérique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi ça. Il a marqué tous les buts du Canadien depuis le début du mois de décembre en avantage numérique. C'est quand même hallucinant. Et je regardais tantôt, j'ai fait une petite recherche. Depuis 25 ans, depuis le début des années 2000, 8 buts en 9 matchs en avantage numérique. Il y a juste Leon Draisaitl qui fait ça il y a 3 ans. David Pastrnak en 2019. Teemu Selänne en 2008. Jaromír Jágr en 2005. Et Todd Bertuzzi en 2003. C'est quand même... et là, on parle d'un gars...
club,
pas... Ben oui, c'est pas pire club. Pour un gars qui n'a pas joué depuis un an, là, c'est une séquence incroyable. Puis,
et il a dit qu'il n'avait même pas recommencé, qu'il n'avait même pas... senti qu'ils sont lancés, t'es revenu à 100% encore. Il n'avait pas touché un bâton de hockey de l'été au complet. C'est, c'est quand même fou, là.
Non, c'est hallucinant. Puis je regardais, est-ce que s'il y a des joueurs qui avaient réussi à marquer 9 buts en avantage numérique en 10 matchs au cours des 25 dernières années, il y en a juste un qui a réussi à le faire, c'est Pastrnak. Alors s'il fait ça en visitant son ancienne équipe ce soir, ça va quand même être un exploit. Puis l'autre joueur qui me jette par terre, c'est Lane Hudson. Puis on s'entend, je pense pas arriver avec quelque chose qui jette les auditeurs par terre en disant ça. Là, on regarde le nombre de points, son rythme de saison. On s'en va vers une saison de 60 points et plus. On s'entend, les Dog Days of Winter sont pas encore commencés. Là. Le bout, c'est difficile de jouer au hockey, ouais. De se présenter, de jouer de façon un peu plus robotique parce qu'on voit pas encore le dernier droit de la saison arriver. Puis on commence à parler du trophée Calder, mais il y a beaucoup de compétition. Mais moi, il y a une statistique de Lane Hudson qui me jette par terre. C'est que depuis le début du deuxième mois de la saison, donc depuis le 4 novembre, on s'entend, je lui accorde un mois pour s'être familiarisé avec la Ligue là, du 4 octobre au 4 novembre, mais depuis le deuxième mois de la saison, Lane Hudson est deuxième parmi les défenseurs de la Ligue nationale pour le rythme de but marqué par son équipe en avantage numérique. Fait que quand il est sur la glace en avantage numérique, Lane Hutson, le Canadien marque pas loin de 13 buts par tranche de 60 minutes. C'est 12,97 buts par tranche de 60 minutes. Et il y a juste un défenseur dans la Ligue nationale, un autre quart arrière d'avantage numérique qui fait mieux que lui. C'est Dougie Hamilton avec 14,79 buts par tranche de 60 minutes. Ouais. Et regardez les noms qui sont derrière. Le Quinn Hughes est à 11 buts, 0.27 par tranche de 60 minutes. Donc, il est un but derrière Lane Hutson. Evan Bouchard est à 10.33. Cale Makar est presque à la moitié de Lane Hutson. Il est à 7.60 buts par tranche de 60 minutes.
Ouais, l'Avalanche a un pas pire avantage numérique.
Ben, on s'entend, là. Regardez avec qui il joue Cale Makar. Puis Cale Makar, il est reconnu. Souvenez-vous, il était encore d'âge junior et puis l'équipe canadienne senior lui avait demandé d'aller participer au championnat mondial, de quitter son programme universitaire pour aller au championnat mondial pour animer l'avantage numérique, tellement c'est un artiste de l'avantage numérique. Puis Adam Fox, je nomme des gagnants du trophée Norris. Adam Fox est à 6,21. Il est à la moitié de ce que fait Lane Hutson en avantage numérique. Fait qu'il est en train vraiment de se tailler une place comme corps arrière. Ça faisait longtemps qu'on disait que le Canadien n'avait pas de corps arrière, de véritable corps arrière en avantage numérique. Et ça peut changer une saison. Là. Tu peux faire, si ton avantage numérique fonctionne, même si tu n'es pas très, très fort en attaque à 5 contre 5, tu peux faire un bon bout de chemin avec ça. Tu peux gagner des matchs si tu joues de façon responsable défensivement. Fait que et si tu combines ça à ce que je disais tantôt, là, la fiche du Canadien contre les équipes du dernier tiers de la Ligue, je pense que cet élan-là peut se transposer, peut durer assez longtemps et peut faire en sorte que le Canadien va finir dans le deuxième tiers de la Ligue pour la première fois depuis un bon bout de temps.
Le deuxième tiers, ce qui est probablement ce qu'on a appelé communément avant le début de la saison, le mix. Merci beaucoup, Martin, pour cette première collaboration ce matin. On va suivre ça ce soir. Peut-être qu'il va y avoir quelques billets verts sur le tableau, gracieux site Patrick Laine ce soir. Et on aura l'occasion de se reparler tout ça demain matin, même heure.
Excellent, Greg. Ça a été bien le fun. On fait ça demain.
Très belle journée. À demain, Martin.
Bye-bye.